Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Cette semaine, nous allons parler de sport et de santé. Pour cela, j'ai rencontré Frédéric Derbré, doctorant au sein du laboratoire de mouvement, sport et santé. Il a soutenu sa thèse en novembre dernier. Celle-ci portait sur les mécanismes dans le muscle qui permettent de faire reculer le processus de sarcopénie. Alors, qu'est-ce que la sarcopénie ? Qu'est-ce que le stress oxydant ? Frédéric Derbré est au micro de Radio Campus Rennes pour répondre à nos questions. Frédéric Derbré, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes étudiant au sein du laboratoire M2S, Mouvement, Sport et Santé à l'Université Rennes 2. Vous travaillez au sein de l'équipe de physiologie.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce que vous étudiez au sein de cette équipe ?
Donc, en fait, oui, le laboratoire Mouvement, Sport, Santé se divise en deux équipes. Finalement, en fait, l'objet commun qui réunit tous les gens dans ce laboratoire, c'est le sport, avec une équipe qui s'intéresse plutôt à un aspect biomécanique. Et moi, je travaille dans une équipe, en fait, de physiologie, où on va s'intéresser, en fait, à quels sont les effets bénéfique du sport pour la santé dans différents aspects, mais également dans quelle mesure on peut optimiser aussi la performance chez les sportifs de haut niveau sur un aspect physiologique, biologie.
Vous avez fait des études de STAPS, donc de sport. Comment vous en êtes arrivé à faire une thèse ? Et votre objectif, est-ce que c'était de faire de la recherche ?
Non, finalement, je suis rentré, je pense, comme beaucoup d'étudiants en STAPS, avec la passion du sport comme motivation première, et aussi l'envie finalement au départ d'être professeur d'éducation physique et sportive, donc au lycée, au collège. Et finalement, dans mon cursus, donc, j'ai fait une licence et petit à petit, je me suis orienté plutôt vers la recherche parce que le métier d'enseignant finalement me faisait peur à long terme. J'avais le besoin d'apprendre toujours un peu des choses et du coup, je me suis un peu orienté vers un profil de recherche. Je me suis orienté ensuite vers un master justement qui s'appelle M2S comme le laboratoire, dans lequel on étudie finalement le sport plutôt sur un aspect vraiment physiologique et biomécanique, donc du coup qui m'a amené à approfondir mes connaissances en biologie et qui finalement à terme m'a amené à faire une thèse qui est autant du domaine STAPS que du domaine de la biologie.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre sujet de thèse ? Quel était l'intitulé exact ?
Donc en fait l'intitulé de ma thèse était « Étude des voies de signalisation impliquées dans la sarcopénie, rôle de l'inactivité physique et du stress oxydant ». Alors, ça peut paraître un peu barbare à première vue, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. La sarcopénie, qu'est-ce que c'est ? Ça vient du grec sarco, qui signifie chair, et pénia, pauvreté. En fait, ça veut juste simplement dire qu'avec l'avance en âge, se développe petit à petit une diminution de la masse et donc de la force musculaire, qui donc va avoir un impact sur le quotidien de la personne âgée, c'est-à-dire qu'elle va avoir plus de mal à produire des tâches domestiques ou à réaliser des choses de la vie quotidienne. Elle va être de plus en plus dépendante, puisqu'elle va être incapable de, par exemple, de se maintenir très longtemps en position debout. Elle va avoir moins de force pour monter des escaliers, pour aller faire ses courses. Et donc, petit à petit, cette personne va être plus dépendante et, à terme, en étant plus dépendante, va faire moins de choses, elle va être moins active et petit à petit, va se créer ce qu'on appelle une spirale de déconditionnement qui entraîne la personne à un décès. Le but, dans le cadre de ma thèse, ça a été de voir dans quelle mesure pratiquer une activité physique ou dans quelle mesure le fait d'être inactif tout au long de sa vie, ça peut moduler ce moment où on tombe dans cette spirale de déconditionnement.
Donc cette diminution de masse et donc de la force musculaire qu'on appelle donc sarcopénie, c'est un processus naturel ? Ça se produit chez tout le monde ?
Ouais, donc finalement c'est un phénomène qui est physiologique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire Par contre, ce qu'on peut faire, c'est repousser le seuil d'apparition de la sarcopénie. Et finalement, ce phénomène qui est physiologique, qui est naturel, il peut être accéléré sous l'effet de facteurs comportementaux sur lesquels nous, on peut intervenir. C'est-à-dire avoir une alimentation plus équilibrée et donc également pratiquer une activité physique. Donc finalement, ces facteurs comportementaux sur lesquels on peut intervenir permettent à un moment donné de repousser ce seuil d'apparition de la sarcopénie et donc nous permet de vivre en bonne santé plus longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut replacer un peu le contexte. L'espérance de vie à l'heure actuelle en France est située autour de 80 ans. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc par rapport à l'INSEE en 2009, on sait que l'espérance de vie en France en bonne santé est située à 62 ans pour des hommes, à 64 ans pour des femmes. Ce qui, dans le contexte actuel, fait que l'espérance de vie en bonne santé, c'est avant la retraite. Il y a des choses à faire pour améliorer et repousser ce seuil.
Et alors concrètement, votre thèse, elle a consisté en quoi ?
Finalement, on sait que l'activité physique régulière, ça a un effet préventif et ça permet de repousser la sarcopénie. Mais ma thèse, elle s'est intéressée plus spécifiquement à comprendre quels étaient les mécanismes, disons, cellulaires, moléculaires, enfin, disons, dans le muscle même, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une activité physique qui permet de repousser ce seuil d'apparition donc de la sarcopénie. Ce travail de thèse s'est centré plus particulièrement sur le rôle du stress oxydant dans le muscle, dans tous ces phénomènes.
Le stress oxydant, qu'est-ce que c'est ?
Le stress oxydant, c'est un phénomène qui se produit dans toutes les cellules, un peu tout le temps, mais à une dose plus ou moins importante. Alors finalement, nous, on s'intéresse au muscle, donc à une cellule musculaire, et donc tout le temps, la cellule produit un petit peu de ce qu'on appelle des radicaux libres, des espèces radicalaires, témoins du stress oxydant. Et donc ces espèces radicalaires, si elles sont produites à haute dose, vont avoir un impact négatif pour la cellule, puisque ce sont des molécules un peu, disons, instables et très réactives qui vont, lorsqu'elles sont produites, vont aller attaquer des structures d'une cellule, donc que ce soit l'ADN, les protéines ou la membrane de la cellule, et ce qui fait que donc ce stress oxydant, lorsqu'il est trop important, va engendrer des dommages irrémédiables pour la cellule. Et donc, dans le cas de notre cellule musculaire, s'il y a des dommages irrémédiables, ça va forcément avoir un impact sur le muscle. On perd de la masse et on a un muscle qui fonctionne moins bien, donc on perd aussi en force musculaire.
Donc ce stress oxydant est un phénomène naturel qui est plus ou moins important à un moment donné de notre vie, en fonction de l'âge ou d'un événement. Mais alors, est-ce qu'il est systématiquement néfaste pour l'organisme ?
Si ce stress oxydant est produit de manière modérée, à petite dose, il a un effet, disons même essentiel dans la cellule pour son bon fonctionnement. Par contre, si ce stress oxydant devient chronique, c'est-à-dire 24 heures sur 24, on va avoir plus d'espèces radicalaires qui vont être produites, et ben, à terme, ce stress oxydant va avoir un impact négatif pour le fonctionnement de la cellule.
Donc il y a plusieurs sources qui provoquent ce stress oxydant. Et la principale, donc c'est dans les mitochondries, je crois.
Oui.
Donc les mitochondries, c'est ce qu'on trouve dans les cellules.
Oui, donc en fait, les mitochondries, on trouve ça dans toutes les cellules de notre organisme. En fait, des mitochondries, c'est un organite qui va être en charge de produire l'énergie dans la cellule musculaire en utilisant donc des substrats énergétiques comme les glucides, les lipides qu'on ingère dans notre alimentation. Mais pour qu'elle puisse produire de l'énergie, il lui faut de l'oxygène. Et donc, cette mitochondrie utilise pratiquement tout l'oxygène qui lui est apporté. Sauf, en gros, sur 100% d'oxygène, il y en a 2% qui ne vont pas être utilisés par la mitochondrie et qui vont subir un traitement un peu particulier et vont être transformés en, disons, en espèces radicalaires. Et donc, ces espèces, ces petites molécules instables vont aller attaquer tous les éléments qui entrent dans la constitution de la cellule. Et donc, si c'est à petite dose, c'est pas grave, mais si c'est de manière chronique, comme je disais tout à l'heure, eh bien, ça va avoir un effet néfaste pour la cellule.
Donc quand on dit un effet néfaste, c'est à terme éventuellement la mort de la cellule, quoi.
Ça peut être la mort de la cellule à plus long terme. Avant que cette cellule meure, si c'est pas depuis très longtemps, ça peut avoir un impact sur son fonctionnement. Si par contre ça devient trop important et trop durable dans le temps, ça va entraîner effectivement la mort de la cellule.
Donc le stress oxydant, comme on l'a dit, donc c'est un phénomène naturel qui s'aggrave donc avec l'âge.
Oui, le problème avec le stress oxydant, c'est que avec l'avance en âge, et notamment dans le tissu musculaire, dans le muscle, on va avoir ce stress oxydant qui va s'aggraver. C'est-à-dire qu'il va y avoir une production plus importante de molécules réactives. Alors que quand cette production est modérée, on a tout un ensemble de systèmes dans la cellule qui permettent de prendre en charge cette production. Donc on a des défenses qu'on appelle les défenses antioxydants, ou des systèmes de réparation. Donc par exemple dans une cellule, si mes espèces radicalaires attaquent une protéine, mais cette production est ponctuelle, eh bien, une fois que la protéine va être attaquée, il y aura des systèmes de réparation qui vont réparer la protéine, la remettre en état de marche. Et par contre, le problème avec le vieillissement, c'est que cette production d'espèces radicalaires est plus importante et constante. Et donc, la cellule a beau essayer de se défendre avec ses défenses antioxydantes et a beau essayer de réparer les dommages créés par le stress oxydant, eh bien, ces dommages deviennent trop importants. Et donc, la cellule n'est plus à même de répondre. Et donc là, on a vraiment des dommages qui deviennent très importants.
Vous disiez tout à l'heure que, de temps en temps, c'est bien de provoquer en fait, ce stress oxydant lors d'activités sportives à petite dose.
Ouais, donc en fait, c'est le stress oxydant, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif en soi. C'est-à-dire que tout dépend de la dose. Par exemple, pratiquer une activité physique ponctuelle, c'est-à-dire je vais aller courir une demi-heure, ça va générer une production d'espèces radicalaires, de stress oxydant ponctuel. Mais qui va, en gros, il faut voir ça un peu comme un vaccin. En gros, cette petite production va stimuler les défenses antioxydantes. La cellule va répondre à ce stress en augmentant ses défenses antioxydantes et en même temps en augmentant ses capacités à réparer la cellule. Cette petite dose, il faut la voir un peu comme un vaccin. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un vaccin, en gros, on va stimuler les anticorps qui vont répondre pour lutter face à une maladie. Eh bien, en fait, le fait de faire un exercice, c'est comme un vaccin, on va ponctuellement produire un peu de stress oxydant pour que toutes les défenses qui font face à ce stress oxydant soient augmentées et puissent répondre en cas de grosses doses, comme ce qu'on observe dans le cas du vieillissement. À petite dose, de manière répétée, le stress oxydant est bénéfique. Par contre, lorsqu'il est chronique, constant et à grosse dose, bah finalement, là, il devient négatif et néfaste pour le fonctionnement de la cellule, notamment musculaire.
D'où l'importance de pratiquer une activité sportive régulière.
Exactement.
Et donc, du coup, en pratiquant une activité sportive régulière, on va donc provoquer ce stress oxydant de temps en temps à petite dose. Et alors, est-ce que ça va nous permettre, du coup, de vivre plus longtemps en bonne santé ?
L'activité physique, pour avoir cet effet bénéfique donc de la petite production ponctuelle de manière régulière, bah faut la commencer dès le plus jeune âge, c'est-à-dire faut pas attendre d'avoir 60 ans pour pratiquer une activité physique. Si on la commence à 20 ans et que régulièrement on stimule notre défense antioxydante par l'activité physique, eh bien on va préparer notre organisme à mieux se défendre. Lorsqu'on va commencer vraiment à avoir un processus de vieillissement qui va se mettre en place, eh bien nos défenses vont être prêtes, le système de réparation aussi, pour faire face à la surproduction d'espèces radicalaires, au stress oxydant, qui est lié au vieillissement. Et donc, du coup, on va repousser le seuil d'apparition de la sarcopénie. Par exemple, chez des personnes pratiquant une activité de course à pied, qui courent depuis le plus jeune âge, bah on se rend compte que ces personnes ont une diminution de masse musculaire et de force qui commence à se mettre en place à 70 ans, alors que des personnes qui n'ont rien fait de leur vie, bien finalement, on va avoir ce seuil d'apparition à environ 55-60 ans. D'où le bénéfice de faire une activité physique dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est ce qu'appellent les médecins la prévention primaire. C'est-à-dire intervenir vraiment avant d'avoir le problème.
Et une fois que le problème est installé, est-ce que, du coup, c'est conseillé de continuer à faire une activité sportive ou c'est trop tard ?
Ce qu'a démontré ma thèse, c'est que finalement, faut être prudent par rapport aux conclusions, mais disons qu'on est âgé, on a 60 ans, on a déjà un stress oxydant chronique qui est installé, qui est néfaste. Et si on réalise une activité physique, on va avoir une petite production d'espèces radicalaires, mais qui, en schématisant, va être noyée dans toutes les molécules radicalaires qui sont déjà là, dues au vieillissement. Donc finalement, l'activité physique, dans ce cas-là, va avoir un impact qui va être bénéfique, mais beaucoup moins que si on n'avait pas trop de stress oxydant. D'où l'intérêt de commencer plutôt l'activité physique. Donc, pratiquer une activité physique à 60 ans, oui, bien sûr, il faut le faire, mais il faut être conscient que les effets vont être moins importants. Ou alors, il va falloir opter pour des stratégies un peu différentes à 60 ans. Lorsqu'on fait une activité physique à 20 ans, on se prépare au vieillissement et à la diminution de masse musculaire qui va se mettre en place à 60 ans. Lorsqu'on a 60 ans, qu'on a déjà une diminution de masse musculaire, il ne s'agit plus de prévenir, maintenant il s'agit d'intervenir. Il faut essayer de réaugmenter cette masse musculaire qui a diminué liée au vieillissement. Et ça n'a pas impliqué, disons, les mêmes stratégies en termes d'activité physique.
D'accord, mais dans tous les cas, il n'est jamais trop tard pour se mettre à une activité physique.
Il n'est jamais trop tard. Il faut bien pondérer le discours. Les adaptations se font moins bien, mais ce n'est pas trop tard.
Et alors, pour ceux qui n'aiment pas le sport, est-ce que vous avez des conseils à donner ?
Si les gens n'aiment pas faire du sport, ce qui est compréhensible, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas pratiquer le sport à proprement dit. Bah, il suffit de pratiquer une activité, aller au boulot à vélo, marcher, s'astreindre à 15-20 minutes de marche pour nos activités de tous les jours, monter des escaliers, éviter de prendre la voiture quand on peut marcher un peu. Bah, c'est une activité physique qui va avoir un rôle préventif pour la sarcopénie. Et ce, sans aller forcément faire du sport.
Et tout de suite, une petite coupure musicale. On écoute Lake of Afro avec le titre Full. Donc la sarcopénie provoque à long terme la mort des cellules musculaires. Donc plus on a développé de cellules musculaires auparavant, plus le processus va mettre du temps.
Plus on a de cellules musculaires, plus notre muscle, a priori, il va être volumineux et plus on va être capable de générer une force importante et donc de maintenir donc, une qualité de vie correcte.
D'accord, il y a des sports pour ça.
Et en fonction de l'activité physique qu'on pratique, on n'a pas les mêmes adaptations. C'est-à-dire que, par exemple, si on pratique une activité de type musculation, ce qu'on appelle une activité de force, eh bien, on va favoriser en fait, la prise de masse musculaire en stimulant donc, la synthèse des protéines musculaires. Et donc ça va permettre d'augmenter la masse musculaire. Par contre, si on pratique une activité physique de type course à pied, d'endurance, c'est-à-dire où finalement il y a le muscle travaille mais pas à une intensité maximale, pas avec une contrainte maximale, eh bien on va pas a priori augmenter la masse musculaire. C'est simple à comprendre, enfin on voit bien qu'un marathonien n'a pas la masse musculaire d'un bodybuilder. Pourtant, c'est des deux personnes qui pratiquent une activité physique importante, mais ce n'est pas la même activité physique. D'où, en se replaçant dans notre contexte de sarcopénie, on n'adopte pas les mêmes stratégies. Lorsqu'on est dans une logique de prévention, pratiquer une activité physique régulière de type endurance ou simplement pratiquer du vélo tous les jours, marcher, monter les escaliers, sont des activités, disons, modérées, mais qui ne vont pas favoriser la prise de masse musculaire, mais par contre, vont empêcher et vont repousser le seuil de diminution de masse musculaire. Par contre, lorsqu'on a 60 ans, on a déjà une diminution de masse musculaire, le fait de faire du vélo, de la marche, bien évidemment, ça va être bénéfique pour d'autres aspects, pour la santé de la personne, mais pour réaugmenter la masse musculaire, ça ne va pas être suffisant. Donc dans ces cas-là, pour essayer de limiter cette diminution et réaugmenter un petit peu la masse musculaire, faut opter pour des activités, disons, de force ou de musculation, où là, on va stimuler la prise de masse musculaire.
Donc faire de la musculation, est-ce que finalement ça a un lien avec le stress oxydant ou pas ?
À l'heure actuelle, enfin, par rapport aux connaissances qu'on a, pratiquer une activité de musculation, c'est pas forcément reconnu pour son effet antioxydant. Si je pratique une activité de musculation régulière, j'ai en gros capitalisé, je vais avoir une masse musculaire plus importante, et a priori, en partant avec un capital musculaire plus important, je repousse le moment où je vais être dans une situation de sarcopénie où ma masse et ma force musculaire va devenir insuffisante pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. On n'est pas sur les mêmes mécanismes mis en jeu lorsqu'on pratique de la musculation ou des activités de type endurance.
Alors on va passer maintenant à votre travail en laboratoire. Tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure, est-ce que vous l'avez testé sur des personnes? Comment ça se passe?
Non, finalement, comme mon travail est assez précis sur les mécanismes mis en jeu, c'est-à-dire qu'on a été au cœur du muscle pour voir ce qui s'y passe, c'est pas très facile d'aller piocher un muscle chez une personne âgée, surtout en France, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on travaille avec des modèles animaux. Donc je travaillais en fait sur des rats et des souris dans le cadre de ma thèse. Et donc, j'avais des rats qui étaient âgés, des rats qui étaient jeunes, des rats qui pratiquaient du sport quotidiennement, qui couraient sur un tapis roulant quotidiennement, et d'autres qui ne faisaient rien. Finalement, ce qu'on a observé, c'est que, justement, tout à l'heure, je disais que, finalement, quand il y a trop de stress oxydant, on a plus de mal à s'adapter et à avoir les bénéfices de l'activité physique. Concrètement, on l'a démontré dans mon travail de thèse, on avait des rats qui étaient âgés, donc qui, eux, débutaient une activité physique. A priori, ils se mettaient à courir alors qu'ils n'avaient rien fait auparavant. Et on avait aussi des rats jeunes qui subissaient le même protocole d'entraînement. Et on a regardé ce qui s'y passait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, des rats qui n'ont rien fait tout au long de leur vie, eh bien, lorsqu'on leur fait faire une activité physique, ils ont beaucoup plus de mal à s'adapter parce que justement, ils ont ce stress oxydant chronique qui nuit aux adaptations bénéfiques de l'exercice et à la petite dose homéopathique que permet l'activité physique et qui permet de stimuler les défenses antioxydantes. Donc du coup, on a observé effectivement que les adaptations ne se faisaient pas lorsque le rat était âgé.
Et alors, vous avez aussi fait des tests sur des rats qui étaient actifs et d'autres qui ne l'étaient pas ?
Oui, donc comme ma thèse s'intéressait au rôle de l'activité physique et de l'inactivité physique, on a aussi exploré le versant inactivité. Donc, c'est-à-dire qu'on a placé des rats dans un modèle, disons, d'inactivité radicale au niveau du muscle, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait en sorte que leurs membres, leurs pattes arrière, en fait, en gros, ne soient plus soumis à la pesanteur et donc n'aient plus d'activité durant 2 semaines. Ce qui a normalement pour incidence de diminuer de manière drastique la masse musculaire, c'est-à-dire que leurs muscles perdent à peu près la moitié de leur volume. Et c'est un modèle qui était intéressant donc, pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une situation vraiment d'inactivité. Comme lorsque, par exemple, une personne âgée est alitée à l'hôpital parce qu'elle a fait une chute, elle se retrouve immobilisée, alitée pendant 1 semaine ou 2 à l'hôpital. C'est exactement ce qu'on a essayé de reproduire avec notre modèle animal. Et dans le cadre de ce modèle donc, d'inactivité radicale, on a essayé de tester certains antioxydants pour voir si, en limitant le stress oxydant pendant une période d'inactivité, eh bien, on limite la diminution de masse musculaire. On a observé qu'effectivement, avec notre antioxydant qui s'appelait de l'allopurinol, qui a des propriétés antioxydantes mais qui n'est pas utilisé pour ça dans le milieu médical, on s'est rendu compte qu'avec ce médicament, bien on limitait la diminution de masse musculaire dans une période d'inactivité. Ce qui là encore souligne l'importance du stress oxydant dans la diminution de masse et de force musculaire, que l'on soit âgé ou que l'on soit inactif.
Alors vous nous parlez d'un médicament qui permet de lutter contre ce stress oxydant, mais est-ce qu'il existe des moyens plus naturels de lutter contre ce stress oxydant ?
Au-delà du médicament, on peut intervenir donc, par l'alimentation aussi pour lutter contre ce stress oxydant qui se met en place avec l'avance en âge, donc en optant pour une alimentation riche en légumes et fruits, par exemple riche en vitamine C, en vitamine E. La vitamine C, on la trouve dans les oranges, dans les fraises. Il y a aussi 2 verres de vin par jour. Le vin a des propriétés antioxydantes via les polyphénols qu'il contient. On a aussi le cacao.
Alors j'imagine que l'objectif de toutes ces expériences sur les rats, c'est avant tout de passer un jour sur l'humain.
Ouais, bien évidemment, ouais. J'aurais bien aimé faire ma thèse directement chez des personnes âgées, en leur proposant un protocole d'activité physique qui aurait été bénéfique pour eux et en même temps en faisant des analyses au niveau musculaire. Malheureusement, à l'heure actuelle en France et dans beaucoup de pays européens, c'est un peu compliqué en fait de faire une biopsie musculaire. C'est-à-dire, finalement, quand on parle de biopsie musculaire, les gens voient ça comme quelque chose d'invasif qui peut être douloureux. Finalement, c'est prélever très peu de muscle, c'est 100 mg. Mais à l'heure actuelle, en France, c'est pas très bien accepté. Mais à terme, j'aimerais bien passer vraiment sur l'homme pour pouvoir voir finalement, on parlait tout à l'heure des modalités d'exercice, quelles sont les activités physiques les plus adaptées chez les personnes âgées. Vraiment, aller vraiment loin dans les mécanismes moléculaires, cellulaires, en fonction des activités physiques que l'on fait. Et parce que je pense que finalement, les modèles animaux, c'est pas l'homme, donc c'est des modèles qui sont valables scientifiquement, mais qui ont leurs limites. Personnellement, sur le plan éthique, je pense qu'aller faire une biopsie et prélever un petit peu de muscle à des personnes âgées auxquelles on a proposé un protocole pendant 4 ou 5 mois qui les a remis en bonne santé, c'est quelque chose qui est éthiquement pour moi plus acceptable que tuer beaucoup d'animaux pour des applications scientifiques. C'est par exemple c'est ce qui se passe en Scandinavie, la biopsie est beaucoup plus acceptée qu'aller faire des expériences au niveau animal. Bah, petit à petit, ça a peut-être changé en France, les choses se mettent en place et ça permettra aussi d'avoir des travaux vraiment encore plus applicables et pour donner des recommandations encore plus précises aux personnes âgées ou à la population active en général.
Et est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec des labos qui, eux, sont plus centrés sur le domaine médical ?
Ouais, alors finalement, ma thèse, on a expliqué au début de l'émission que je l'ai effectuée dans le laboratoire Mouvement Sport Santé donc de l'université Rennes 2. Mais cette thèse, en fait, je l'ai effectuée en co-tutelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé la moitié de mon temps dans une autre université, donc à Valence, en Espagne, qui, elle, était plutôt une unité, en fait, médicale et de biochimie, en fait, à proprement dit plus de biologie, et qui travaillait aussi avec le milieu médical pour des applications plus concrètes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Campus Rennes au www.radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.